Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Maya Mazored, qui est en passe de devenir connue de la France entière comme la chroniqueuse sexo et tous les sujets en rapport avec le corps depuis qu'elle passe 4 fois par semaine chez Quotidien. Vous entendrez que Maya et moi, on se connaît depuis un bail, maintenant quasiment 15 ans. Elle a bossé pendant plusieurs années chez Mademoiselle, avant de bosser pour GQ, puis Le Monde et plus récemment France Inter et donc Quotidien. Dans cet épisode, attention, on parle de plein de choses. Ça commence par une déclaration d'amour à Fibre Tigre, ancienne invitée du podcast. Puis on discute du parcours assez particulier de Maya, dont le premier roman a été publié à l'âge de 21 ans, de son entrée impromptue à l'ESJ de Lille, de ses débuts dans l'univers de blog dès 2001, de son expérience d'expatrié depuis 14 ans, ce que lui a apporté la vie à l'étranger et notamment au Danemark, vous verrez, elle en parle de façon absolument délicieuse, et bien sûr du buzz qu'elle a déclenché jour 2 de son nouveau boulot chez Quotidien. On discute aussi ensemble du conflit générationnel qu'elle vit avec certaines féministes qui ont une vingtaine d'années, de la façon dont elle vit ce décalage de point de vue, du rôle qu'elle a joué à défricher le terrain, si je puis dire, sur le sujet du sexe, et enfin de la raison pour laquelle elle écoute religieusement les chroniques d'Alain Finkielkraut sur France Culture. Enfin, on discute de l'importance de s'émanciper du salariat, elle qui a toujours quasiment vécu en tant que freelance. Vous entendrez, cette interview est enlevée et passionnante, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai adoré retrouver Maya autour d'un micro et j'espère que vous aimerez aussi.
Parfait. Bon, alors j'étais en train de dire, pendant que tu es en train de faire tes réglages, que je suis tellement fière de faire ce podcast après Fibre Tigre, qui est mon héros absolu et avec qui je m'endors tous les soirs. Et c'est ça le scoop, c'est pour ça que je te demande d'allumer le micro. Parce que pendant le confinement, j'ai découvert Game of Thrones.
Ah ouais.
À la base, j'aurais pas parié une cacahuète sur le fait de faire du jeu de rôle comme ça en podcast. Et j'avais vraiment rien de mieux à faire. Et je me suis dit, oh, quand même, l'âme, Fibre Tigre, Daz, ils sont sympas. Je vais écouter. Et en fait, ils m'ont tenu compagnie pendant le confinement parce que j'avais 150 heures à rattraper.
Oui, beaucoup.
Et je me suis aperçue que si je les écoutais, parce que c'est toujours les mêmes voix, alors dans ce cas-là, j'avais plus de problème d'insomnie parce que t'es plus en train de penser à tes factures, t'es plus en train de penser à tes articles, tu penses à la compagnie Créance. Ou je sais pas quelle est la nouvelle, la compagnie des vengeurs d'ennemis, un truc comme ça, ouais. Des vainqueurs d'ennemis. Et tous les soirs pour m'endormir, et encore maintenant, je me mets un épisode de Game of Thrones, y compris si je l'ai déjà écouté, et en un quart d'heure, une demi-heure, et je m'endors en écoutant ces histoires comme quand j'étais enfant.
Oh.
Et ça, c'est vraiment le talent de Fibre Tigre de faire une histoire qui est pas du tout anxiogène, qui est proche du merveilleux, et qui a un super remède à l'insomnie. En fait, Fibre Tigre, que j'ai dû croiser une demi-fois dans ma vie, okay, a résolu 25 ans d'insomnie.
Mais à ce point-là ?
Mais voilà, mais ça, c'est le talent, tu vois.
Ah ouais ?
Oui.
Ok.
Je trouve qu'il a une voix hyper apaisante. Et du coup, là, cette semaine, j'ai profité des locaux de Quotidien pour tourner le récap de leur dernier épisode qui a été tourné hier soir. Donc, je vais faire guest dans Game of Thrones maintenant, parce que j'en parle tellement autour de moi. J'adore tellement ce truc. Ouais, et c'est un peu surprenant parce qu'il y a plein de journalistes en ce moment qui viennent me parler et qui disent mais comment ça la science-fiction, le jeu de rôle, oui, le jeu vidéo, la fantasy, et qui sont hyper surpris que le monde de la sexualité qui est effectivement hyper sexué puisse s'associer à des mondes que eux imaginent comme asexués complètement, comme des trucs pour nerds qui justement sont des puceaux et tout.
Ouais.
Alors que si. Enfin, je suis pas en train de dire que je voudrais coucher avec Fibre Tigre. Oh là là, ça va être la catastrophe quand on va écouter ça. Non. Je suis contente que.
Non, mais qu'est-ce que t'allais dire ? Termine ta phrase.
Quelle phrase au sujet de quoi ?
Juste avant que tu dises, je voulais pas dire que t'allais coucher avec Fibre Tigre.
Ah oui, non, mais que j'aimerais bien travailler avec lui et que je trouve que c'est un auteur hyper talentueux et que. Je crois que le premier histoire de talent que j'ai écouté, c'était le sien.
Ok.
Et du coup, quand tu m'as proposé, je me suis dit, ah ah !
Ah, trop bien.
Voilà. Bon, bah, mais écoute... bon, c'était l'instant fangirl. J'adore Fibre Tigre.
Donc, juste pour info, si vous avez jamais entendu cet épisode, je vous invite à aller retourner dans votre flux de podcast où je vous mettrai un lien dans les notes. Vous pourrez découvrir l'épisode avec Fibre Tigre qui est un mec passionnant, en fait, mais un peu avec un parcours un peu qui te ressemble un peu, où, en fait, à partir du fait de raconter des histoires, il est allé à droite, à gauche, dans différents domaines un peu
différents.
Ouais,
exactement, tout à fait, tout à fait. Et quand je vois ce qu'il fait, parce qu'évidemment, moi, je le lis et je l'écoute avec aussi un regard critique, parce que je me dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il fait comme scénario ici, où est-ce qu'il les emmène. Oui, mais j'observe aussi, et je pense qu'on travaille un peu pareil aussi. Et ça, c'est toujours intéressant, parce que ça crée une espèce de fluidité dans l'espèce de relation complètement via les ondes, via les mots qui... enfin, vraiment, je crois que je l'ai vu une fois physiquement.
Ok. Bah écoute, si tu veux, je lui envoie un mail.
Oh non, mais on est en contact par mail, on est en contact par le reste, mais c'est... C'est marrant de quand il y avait Studio 404, en fait, il y avait déjà des gens qui disaient ce qui serait fou, ce serait qu'il y ait un spin-off avec Maya et Fibre Tigre. Oh. Parce que je pense que... on n'était pas la première, enfin moi j'étais pas la première personne à penser
une filiation.
Qu'on est dans le même on est dans le même délire. Oh là là, quelle longue lettre d'amour. Ça va pas être histoire de succès, ça va être histoire du succès de Fibre Tigre raconté par moi.
Ceci dit, ça me dit un truc aussi, c'est que de ce fait là t'écoutes un quart d'heure, 20 minutes de chaque épisode.
Ouais.
Et tu t'endors.
Oui.
Donc t'écoutes pas la suite, en fait.
Bah, je reprends en arrière chaque soir. En fait, il y a un truc super sur le Apple Podcast qui est le timer.
T'as un timer
pour, pour s'endormir. Donc, je mets une demi-heure tous les soirs. Et il y a des soirs où j'entends littéralement 5 minutes, quoi. J'entends l'âme rater un jet de dés et puis c'est parti pour la suite.
Ah, c'est cool. Ouais. Bon, bah écoute, merci. J'enverrai un petit message à Fibre en lui disant « Hey, écoute ça, tu vas voir. T'as pas besoin d'aller très loin dans le podcast, c'est seconde 2. Bon, Maya, en tout cas, je suis ravi de t'avoir. On était en contact depuis quelques temps, parce que je t'avais dit...
Depuis 15 ans, en fait.
Alors, ouais, on va en reparler, mais en vrai, pour que tu passes à ce micro-là. Et j'ai découvert complètement par hasard, parce qu'entre le moment où on s'est parlé et le moment où je t'ai vu en train de faire le buzz sur Quotidien, je me suis rendu compte qu'en fait, t'étais rentrée en France.
Oui.
Vraiment, j'étais pas au courant.
Mais c'est tout récent, hein.
Ouais.
Je suis arrivée fin juillet, mais après je suis repartie en vacances en Italie, à Venise et Florence. Donc ça fait 3 semaines que je suis là, en fait.
Okay.
Et ça fait 3 semaines que je fais Quotidien, donc je suis arrivée vraiment juste avant le départ de cette incroyable rentrée multiplateforme France Inter Quotidien Le Monde.
Ouais.
Puisque je fais les trois.
Tu dors un peu ?
Bah, grâce à Fibre Tigre, oui.
Désormais. Avant, tu dormais pas ?
Non.
Putain,
depuis mes 14-15 ans, okay. J'avais vraiment des difficultés avec ça. Et bon, j'en ai encore là, tu vois, tu arrives et j'ai dû me remettre du Fibre Tigre à 4h30 du matin parce que j'étais réveillée. Et je pense aussi que c'est parce qu'il se passe tellement de choses pour cette rentrée que j'ai trop d'adrénaline, trop de choses auxquelles réfléchir et que du coup, effectivement, les journées sont trop courtes pour que je puisse métaboliser tout ce qui m'arrive.
D'accord. Bon, on va reparler de tout ça, de ton actu là, mais plutôt vers la fin du podcast. Tu sais, ce podcast, vraiment, c'est...
Il faut faire les choses dans l'ordre.
Voilà, j'aime bien garder un fil, tu vois. Après, on peut digresser, c'est pas très grave, mais au moins, on garde un fil.
Tu remontes sur les générations antérieures ou pas ?
Alors, ça serait peut-être un autre podcast qui serait vraiment...
Histoire de génération.
On ferait un podcast transgénérationnel, ça serait fou, tu vois.
Ça n'a pas déjà été fait. Si, en ce moment, il y a Charlotte Pudlowski qui fait son machin sur l'inceste.
Ah, j'ai pas écouté.
Voilà, et donc elle interroge sa mère.
Ah, ok. Alors, il y a Mayua qui a fait donc la sœur de l'âme dont tu parlais tout à l'heure.
J'ai pas encore vu son film sur les rizières, c'est ça le...
Les rivières.
Oh la vache. Point racisme atteint à 5 minutes du 5 minutes du début du podcast. Alors, les rivières, pas les rizières. Aïe, aïe, aïe. Ça part mal.
Ou effectivement, en fait, elle parle de sa lignée, de la lignée de femme de sa grand-mère à sa fille.
Et, tout à fait.
Et en fait, si tu l'as pas encore vu, je te conseille de le regarder parce que je pense que en fait, en vrai, toutes les femmes devraient le regarder et en fait, tous les hommes tous les gens devraient regarder parce que c'est hyper intéressant ce qui se passe.
Mais en fait, l'âme m'avait beaucoup parlé justement de cette configuration intéressante dans sa famille, donc j'ai l'impression de déjà connaître l'histoire, ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas encore vu le film, mais je le verrai.
Bref, tout ça pour te dire. La première question que je pose à mes invités, c'est à quoi ressemblait Maya quand elle avait 7-8
ans ? 7-8 ans, j'étais donc en CE1, CE2. J'avais sauté le CP, donc j'étais un petit peu en avance.
Ah.
Je devais être en phase, peut-être en phase rose quand même. Il paraît que j'ai eu ça à un moment. Je voulais être déguisée en panthère rose tous les jours, ce que mes parents me laissaient faire sans aucun problème. Et j'étais en avance à l'école, donc j'étais un peu pas mouton noir, pas trop outsider à cette époque-là. Plutôt la petite poupée dont tout le monde s'occupe.
Ok.
Plutôt chouchou en fait, ce qui est pas désagréable.
Ok. Et en termes de personnalité?
Moi, j'avais l'impression tout de suite de pas être intéressante du tout. Et j'ai vraiment des souvenirs très très précis de ça.
De quoi ?
Que j'étais la moyenne totale. Et c'est marrant parce que, on pourrait dire déjà que j'étais en avance à l'école, donc j'étais pas dans la moyenne. Mais parce que j'avais les cheveux marronnasses, alors donc ce n'est pas ma vraie couleur de cheveux. Je ne suis pas dans rouge flamboyant de naissance.
Décevant, ce coup.
Et j'avais l'impression que j'avais une taille normale, un poids normal. C'est bizarre de dire normal d'ailleurs aujourd'hui, à cette époque où on remet en cause la norme. Avec des yeux intermédiaires, une famille où personne ne divorçait, où on déménageait jamais. J'avais l'impression que absolument rien ne me distinguait de mes camarades de classe qui, eux, avaient, je sais pas, des aventures, il se passait des trucs. Et moi, je me disais, mais personne ne s'intéressera jamais à moi. Et dans une certaine mesure, je pense que c'était aussi le produit et le résultat du fait que j'étais un peu à part des autres. Voilà, et puis sinon, j'étais déjà féministe à 7 ans.
Comment ça ?
Parce que comme mes deux parents sont féministes et qui m'ont élevée de manière non genrée, dès que je suis arrivée à la maternelle, ça a tout de suite été conflictuel pour moi d'être renvoyée, pas par l'institution scolaire, mais par les camarades de classe, à des loisirs qui ne m'intéressaient pas, à des jeux qui ne m'intéressaient pas, d'autant que j'ai un petit frère. Donc dans la famille, on partageait des jeux des deux genres. Donc quand moi je peux jouer à la maison avec mon frère, je sais pas, au G.I. Joe, au Playmobil, et qu'on fait des vaisseaux spatiaux, et qu'ensuite, quand j'arrive à l'école, on me dit que j'ai pas le droit de faire ça, alors forcément, il se produit un truc qui est incompréhensible pour une petite fille, et qui, quelque part, reste incompréhensible pour une fille un peu plus grande aujourd'hui. Je comprends absolument pas cette histoire de genre, et d'ailleurs, récemment, on m'a demandé de faire un truc pour un magazine féministe qui se monte, qui s'appelle Gaze, ouais. Sur justement le female gaze. Et il me demandait, est-ce que tu veux bien répondre à 3 questions sur ta féminité ? Et c'est absolument impossible de répondre à des questions sur ma féminité, puisque je ne comprends toujours pas de quoi on parle. Et dans l'émission Passant Genre, il faut ramener un objet lié à sa féminité. Et c'est pareil, je suis très embarrassée, parce que c'est quoi un objet lié à ma féminité ? Enfin, ou alors c'est un tampax, parce que j'ai un vagin, mais c'est tout, quoi.
Ok.
J'arrive alors absolument pas à me projeter dans cet imaginaire-là.
On est d'accord que, par exemple, donc on va en reparler un peu après, mais t'as fait pas mal de science-fiction.
T'as écrit. Tu viens de faire un saut de 15 ans dans ma vie.
Attends, on y reviendra, mais c'est juste pour expliquer un peu le truc. Est-ce que tu crois pas que ta vision de la science-fiction, elle est marquée aussi par ton genre ? Parce qu'en fait, les gens te renvoient sans arrêt ton genre. Donc forcément.
Ah, tout à fait, mais en fait, comme ça, c'est ce que les gens me renvoient, c'est pas ce que moi je réceptionne. Oui. Ce que moi je réceptionne, c'est je ne comprends pas de quoi les gens parlent. Et je pense que quand tu lis ma SF, c'est pas le genre que j'exprime, c'est la perplexité face au genre. Okay. Donc ça n'est pas réceptionné. C'est retourner à l'envoyeur, en fait.
Ok, mais c'est très intéressant. Comment ça se passe ta vie ? Alors, à partir de quand tu as la sensation que cette idée que tu sois normal et un peu sans histoire commence un peu à changer dans ta vie ?
Oula ! Alors, peut-être à 25 ans ?
Ah ouais, donc très,
non,
très
attends,
tard ?
Non, attends, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à 16 ans, du coup, je rentre en association féministe,
ah.
À une époque où il n'y a absolument personne qui fait ça, enfin, on n'est pas très très nombreuses, on est un petit peu une curiosité à cette époque-là, donc j'ai déjà des apparitions dans les médias quand j'ai 16-17 ans.
T'as quel âge, Maya ?
Là, j'ai 42.
Voilà.
Donc on est en 95, dans le grand trou du féminisme intervague. Et on était là, enfin il y avait Clémentine Autain qui avait fondé son asso à peu près en même temps que moi, j'entrais dans la mienne. Donc c'est marrant de voir comme ça des personnes politiques qui ont commencé en même temps que moi, et dans les mêmes chapelles. Et ouais, disons qu'il y a ça quand même qui marque une petite différence quand j'ai 16 ans, et qui ensuite parachève le fait que décidément je suis à côté de la plaque sur certains sujets. Ensuite, il y a le fait que quand je suis en école de journalisme, j'ai fait l'école supérieure de Lille. Moi, j'étais en train d'écrire ce qui deviendra mon premier roman. Alors en fait, j'en avais déjà écrit avant, mais ils avaient été refusés par les éditeurs. Et c'est vrai que quand je termine l'école de journalisme, j'obtiens mon diplôme en même temps que je signe mon contrat pour mon premier livre. Donc à 21-22 ans, en fait, je suis publiée. Et juste dans la foulée, du coup, je crée mon blog. Et il me semble qu'on est en 2001, ce qui fait de moi une dino-blogueuse. Parce qu'on était, allez, on était 30 à l'époque.
Ouais.
Quand Internet était encore un tout petit club. Que j'ai pas d'ailleurs connu comme Boys Club, puisque tout de suite, il y avait Bean Girl, il y avait des filles, en fait. Mm. Même au début du net.
C'est vrai.
Ouais, et c'est vrai, côté nerd qui s'exprimait là, parce que j'ai toujours été fan de jeux vidéo. Donc c'est vrai qu'à 11 ans, je prenais des petites cours de code en basique quand j'étais au collège. Mon premier petit ami, je l'ai trouvé sur une... Par Minitel à l'époque, ouais. Non, je suis vraiment, vraiment une vraie... Comment on appelle ça la génération intermédiaire entre la génération X et Millennial? Ouais, c'est les Xennials. Je suis une Xennial, c'est-à-dire que j'ai l'âge d'être enfin de X, mais par contre, je suis digital native, complètement.
Pas digital...
Digital de Minitel et de Pager, tu vois, mais j'ai toujours eu... J'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis toute petite. J'ai à la salle d'arcade avant d'avoir un ordinateur à la maison. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté hyper nerd. Et donc, sur les forums du magazine Gen 4 de jeux vidéo... J'ai trouvé mon premier petit copain.
Oh!
Voilà!
Donc Gen 4 qui est un vieux magazine.
Vieux magazine de jeux vidéo. Et il y avait un genre 3615 Gen 4. Et il y avait des chats. Et donc je chattais. Et j'avais rencontré ce mec-là comme ça.
Waouh! Qu'est-ce qui t'intéresse aux jeux vidéo quand t'es petite? Parce que justement à l'époque c'est une activité pour le coup hyper genrée. J'ai la sensation, tu vois, que c'est un jeu de petit garçon, quoi.
Ouais, mais en même temps, tout de suite ça accroche. Peut-être que la fascination qu'on voit en ce moment des enfants par rapport aux écrans, elle existait déjà à l'époque, c'est juste qu'on n'avait pas forcément des écrans sous les yeux, on pouvait
en permanence,
pas. Je pense que les petites filles et les petits garçons étaient plutôt plantés devant la télé, mais moi j'avais pas trop droit. Et je sais pas, avec mon frère, on a tout de suite bien aimé. Et dès qu'on a pu, on s'est fait payer par les grands-parents, alors que mes parents étaient furieux, une console. Et...
C'était quoi ta première console?
Ça devait être la Nintendo, la NES, de base, en fait. Et puis on avait un Atari ST 520, qui était le ordinateur que les gens avaient pour jouer aussi. Mes parents faisaient des trucs administratifs dessus, mais nous, on jouait autant que possible, quoi. Vraiment. Et toujours aujourd'hui, en fait, même si... J'ai ralenti ma consommation de jeux vidéo pour pas avoir de problème de canal carpien dans la main. Donc j'ai beaucoup, beaucoup joué et j'ai créé à Paris des DS in Paris, c'est des choses comme ça. Ouais. Je me suis retirée du game il y a 14 ans et là en fait j'ai repris un petit peu, j'ai craqué l'an dernier. Bah, aussi avec le confinement en fait, à me ressortir tous les Assassin's Creed et du coup j'attends le prochain et je vais m'acheter une Switch. Donc je retourne à la case départ complètement.
T'es foutu.
Ouais.
Les DS in Paris à l'époque, t'avais monté des rencontres en fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça, des rencontres pour joueurs de Nintendo DS qui est une petite console portable dont les jeux peuvent se jouer à plusieurs et des fois jusqu'à 8. Et t'as pas toujours 8 potes qui ont une DS pour jouer avec toi et qui sont libres au même moment. Donc on organisait des sorties, des pique-niques. Et on était jusqu'à 50. On avait vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui venaient. Il y a des couples qui se sont formés. Et on avait quand même un tiers de nanas, ce dont je reste hyper fière. C'est qu'on avait réussi à créer un truc qui existe toujours aujourd'hui et qui était très mixte.
Ça existe toujours?
Oui, il me semble bien. Oui,
ok.
Oui. Ouais.
Trop marrant. Ok. Donc, pour revenir un petit peu, effectivement, tu disais que tu avais cette idée d'association féministe, qu'est-ce qui te donne envie d'aller faire du journalisme à l'époque?
La peur de terminer à la fac Sorbonne où j'étudiais les lettres modernes, de ne pas savoir quoi faire. Je savais que je ne voulais pas être prof, pas parce que ma mère est prof, mais c'est vrai que je voyais bien que ma mère ne s'éclatait pas particulièrement en étant prof de collège-lycée. Et à un moment, tu fais fac de lettres modernes, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je me disais peut-être enseignante chercheuse. Enfin, j'avais beaucoup de mal à me projeter et j'ai tenté les concours d'école de journalisme vraiment par hasard. Et il se trouve que alors que je les passais pour les tester, j'ai été reçue à l'ESJ. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai absolument pas la vocation.
Ok. Non mais donc et en plus l'ESJ Lille qui est réputée pour être la grande école de journalisme, en tout cas dans le milieu.
C'est la première quoi.
Voilà. C'est le top.
Oui. Oui, j'ai planté les concours de celles qui étaient plus faciles et puis j'ai réussi.
Mais t'es déjà en train d'écrire à l'époque? T'écris depuis longtemps?
Oui, absolument. Depuis que j'ai, pareil, 15-16 ans. En fait, depuis que je me dis, bon, allez, avec l'ordinateur, tu peux apprendre à taper. Je me disais que j'y arriverais jamais. Et non, c'était mon troisième roman, en fait, qui est le premier publié. Okay. Donc j'ai en fait pas sur des disquettes parce que j'ai toujours bien transmis les fichiers, mais j'ai encore en fait mes deux premiers livres quelque part
qui sont pas
lisibles objectivement parlant. C'est pas la peine d'infliger ça à l'humanité. Mais oui je voulais faire ça, bien sûr, raconter des histoires.
Il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement au tout départ les blogs, donc vraiment début des années 2000, avant même que la vague des blogs arrive,
Il y avait pas de plateforme, hein. Moi j'étais sur AltaVista. Parce qu'il n'y avait pas de plateforme de blog, donc il fallait rechanger les blogs tout le temps pour mettre la dernière entrée au-dessus, parce que sinon le blog se mettait naturellement en bas de la page et non pas en haut de la page.
Donc il fallait coder toutes les pages.
Moi je sais vraiment pas coder, mais bon, il fallait déplacer des carrés et donc redéplacer tous les jours, enfin c'était une galère. Et puis c'était avant du coup que la première plateforme de blog 26
ouais,
arrive en France. Et d'ailleurs, 26, ils sont venus me chercher pour que j'aille chez eux, par exemple.
Ah, ok.
Oui, parce qu'il fallait qu'il y ait des blogueurs qui utilisent leur machin, bien déjà sûr, identifié.
Ok.
Mais on n'était vraiment pas nombreux.
Ouais. Il n'y avait pas grand monde, c'est clair.
Ouais.
Mais ouais, tu disais qu'il y avait pas mal de meufs dessus. Et ouais, en vrai, c'est grâce ou c'est à cause de quoi, tu penses?
Je pense que paradoxalement, ce qu'on reproche au podcast aujourd'hui, qui est d'être un truc facile à faire, et du coup d'avoir beaucoup de meufs qui font du podcast, ça devait être un peu pareil pour le blog à l'époque. T'as un machin qui est pas non plus extrêmement techniquement compliqué à faire, qui permet de s'exprimer, de prendre la parole, alors que les canaux plus officiels demandent plus d'argent, plus de production, et restent un petit peu inaccessibles aux nanas.
J'ai une autre explication, je pense, concernant les podcasts.
Vas-y.
C'est que c'est anonyme. On voit pas la tête.
Ah ouais.
C'est qu'il n'y a pas de commentaires.
Ouais, d'accord.
C'est que, en fait, c'est un peu une bulle protégée dans l'écosystème Internet, si tu veux, où à partir du moment où tu vas commencer à mettre une vidéo, par exemple, sur YouTube, déjà, tu es obligé de mettre une vidéo. Donc, tu es obligé de faire, de peut-être montrer ta tête, tu vois, parce qu'il y a un moment donné où c'est un peu le jeu aussi du rapport de la plateforme. Et tu es obligé de mettre des commentaires. Si tu désactives les commentaires, tu joues pas le jeu de la plateforme, quoi. Et je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois, ce rush féminin vers les podcasts aussi. Il y a un côté, effectivement, c'est un plus petit truc. Sans doute, c'est plus facile à faire, mais en vrai, tu prends n'importe quel téléphone aujourd'hui, tu peux faire des vidéos, quoi.
Mais t'as un petit machin aussi générationnel, je pense. C'est pas un hasard si les gens qui font du podcast, ils ont un peu nos âges.
Ok.
Et que quand tu regardes, enfin maintenant, ça fait quand même plusieurs années que les souhaits des jeunes Français et des jeunes Françaises, c'est de devenir YouTuber ou YouTubeuse. Ouais. Et je pense que pour eux, ils ont complètement désacralisé ce rapport à l'image publique et au fait de montrer sa gueule tout le temps et de plus pouvoir être incognito et se planquer un peu.
Mais toi, t'as raté, pour le coup.
Moi, j'ai été très bien, en fait, à pas à cacher mon visage et tout, mais c'est vrai qu'alors là, à la télé, c'est un peu raté, quoi. En plus, 4 fois par semaine, ça fait beaucoup.
Ouais.
Mais aussi, moi, je me suis toujours dit que je pouvais m'évader de tout ça. C'est-à-dire que, imaginons que ça se passe pas du tout bien, là, à la télé, je peux repartir aux États-Unis, donc récupérer mon anonymat total, et voilà, et ensuite, Mazorette, c'est un pseudo, moi je peux disparaître en fait du jour au lendemain. Et c'est aussi quelque chose qui m'attire énormément, le fait de pouvoir retourner au néant, se dissoudre à un moment. Donc j'ai pas l'impression d'avoir franchi un point de non-retour dans ma vie. Je peux encore faire CTRL-Z sur tout, en fait.
Encore un autre point commun avec Fibre Tigre, en fait.
Il a dit ça, lui ?
Non, mais Fibre Tigre, il s'appelle Fibre Tigre. Personne ne sait comment il s'appelle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle.
C'était conscient de ta part, à un moment donné, de choisir ce pseudo ? De te dire, OK, c'est un pseudo, ça me...
Je savais que je ne voulais pas utiliser mon vrai nom.
Pourquoi ?
C'est mon vrai prénom. Ouais. Pour pouvoir annuler. Enfin, vraiment. Et régulièrement, en fait, j'ai créé d'autres personas sur Internet et j'ai créé d'autres identités. Et j'ai aussi mis plein de conneries sur moi, sur Internet, il y a très très longtemps, afin de brouiller plein de pistes sur plein de trucs. Et je suis très curieuse de voir que des fois, il y a des personnes qui trouvent des fausses infos, ils sont persuadés d'avoir trouvé les vraies, enfin c'est assez intéressant. Mais parce que je suis très paranoïaque, donc ne croyez pas ce qu'il y a sur Internet, puisque a priori c'est moi qui l'ai planté, et c'est pas vrai.
Ne croyez pas tout ce que Maya est en train de raconter. En fait, elle s'en fout de Game of Thrones. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer.
Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Bon, pour revenir un peu à ton parcours, le fait que tu t'aies choisi ce pseudo, c'était aussi parce qu'à l'époque, tu avais décidé de parler ouvertement de cul.
Oui, bien sûr. Mais je pense que si j'avais commencé par un de mes romans de SF ou de fantasy, j'aurais aussi choisi un pseudo.
Okay.
Parce que vraiment, j'aime l'idée d'un pseudo en plus. Le fait d'avoir des noms différents, j'ai un problème avec les noms en fait. Je pense que ne pas choisir son prénom, ne pas choisir son nom de famille, qui est en plus, pour les personnes de mon âge, à peu près nécessairement un patronyme, le nom du père. Et j'ai pas de problème avec ça du tout dans ma famille personnelle, mais j'ai un problème avec le fait que le nom du père soit systématiquement transmis. Et le fait que pour une femme, tu puisses en changer, mais si t'épouses, enfin d'ailleurs c'est un changement non officiel, non administratif, si t'épouses quelqu'un, alors à quel moment un truc aussi fondamental que ton prénom ou ton nom de famille t'appartient ? Et le fait que ça m'ait été imposé, même si je suis contente du choix de Maya, par mes parents, je trouve que c'est un abus de pouvoir total et je voudrais pouvoir tout rechanger. Et effectivement, Mazorette, c'est moi qui dis bah là, ma vie, elle m'appartient et mon nom m'appartient. La manière dont j'apparais dans l'espace public m'appartient et je regrette pas du tout.
Est-ce qu'on peut dire que à l'époque, t'étais ultra précurseur ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, et c'est super, il y a eu toute une vague de libération de la parole autour du sexe et de la part des femmes, tu vois. Donc, à l'époque, t'es toute seule. J'ai la sensation vraiment toute seule.
Ouais.
Des jeunes meufs qui parlent aussi ouvertement de cul et qui en parlent de façon aussi libérée, qui en plus le présentent comme un truc normal.
Ça... Ouais, c'est aussi le fait de pouvoir l'incarner parce que à l'époque t'as déjà Agnès Dia qui est déjà chez Libération. Donc quand on dit pionnière du sexe en journalisme, c'est elle, c'est pas moi.
Ouais.
Et j'adore son travail, elle est toujours chez Libé aujourd'hui, mais c'est vrai que elle c'est une vraie nana qui vient de l'académie, donc c'est vraiment des choses très très intello, et que moi j'avais envie de aussi, parce que effectivement internet offrait un certain anonymat, de pouvoir parler de ce que moi je ressentais, des gens que je rencontrais, et même si ça fait bien longtemps que je parle plus de ma vie sexuelle à moi, enfin ça fait sans doute 15 ans que j'en parle pas. Et bah, le fait de pouvoir décortiquer un petit peu celle des autres, de trouver des données là-dessus, reste un truc très facile, très naturel. Et c'est vrai qu'il y avait personne qui faisait ça, mais il y avait personne qui faisait rien aussi. Hein. Donc, enfin, à l'époque, sur 50 blogueurs, on était du coup 50 pionniers. Parce qu'il y avait personne qui parlait de jeux vidéo, parce qu'il y avait personne qui parlait de rien en fait.
Mais c'était quasiment en même temps, ou presque, par exemple, que Sex and the City, qui sortait tout juste, je pense que c'est fin des années 90, Sex and the City, tu vois, qui a un peu mal vie entre nous.
Oui, mais je suis sûre, comme je ne suis pas quelqu'un qui consomme des masses de séries, surtout à cette époque-là, je suis sûre que j'avais fait ça bien avant de savoir que Sex and the City existait.
Oui, ça je me doute bien.
Ouais.
Je ne dis pas que tu as voulu devenir une
Carrie Bradshaw. Non, pas du tout. Non, c'est pas comme ça que je l'ai pris. Mais c'est vrai que c'est quand même aberrant qu'un truc aussi fondamental, aussi vital que la sexualité soit pas traité de la même manière qu'un truc aussi vital que la nourriture ou que le sommeil. Enfin, d'ailleurs, sans dire que forcément la sexualité c'est pratique, parce qu'aujourd'hui la sexualité c'est super théorique. Mais le fait qu'on puisse répugner d'en parler alors qu'on est en France, qu'on est censé être hyper libéré, et que... c'est aussi un truc de nana, en fait. Tu sais, c'est parce que c'est considéré comme un sujet de meuf. Tout ce qui a trait à la vie pratique, on voit bien que ça prend du temps à rentrer dans les médias officiels. Par exemple, Le Monde fait des super séries sur la parentalité, mais c'est génial, en fait, d'avoir été bien placé pour le savoir, d'avoir finalement un journal légitime qui s'occupe de comment est-ce qu'on vit vraiment au quotidien et que ce soit pas considéré comme la différence entre le corps et l'esprit. Et dès que tu t'occupes du corps, et ben c'est les bas morceaux, et dès que tu t'occupes de l'esprit, t'es dans la vérité spirituelle profonde qui se situe au-dessus de tout. Quand tu lis le New York Times, évidemment que t'as de la bouffe, t'as de l'amour, t'as un petit peu de sexe, mais il faudrait qu'on puisse dire comment tu passes l'aspirateur, comment tu laves ton linge, c'est comment ça se fait qu'on sait ce qui s'est passé dans un conseil municipal à l'autre bout de la France et qu'on sache pas toujours comment se qu'il y ait plein de mecs qui savent pas comment se faire cuire un œuf. C'est bizarre ce qu'on choisit quand même de transmettre dans les médias. C'est et clair. Ça commence à bouger.
Bah oui.
En attendant qu'on me donne une chronique à la télé pour expliquer comment je passe l'aspirateur.
C'est ton objectif de vie, c'est ça ?
Non, mais il y a pas des séries télé comme ça où c'est les super les nanas qui savent super bien récurer les toilettes et les salles de bain et tout.
Oui, qui a eu sur c'était pas
sur M6 vous sur avez M6, eu ouais. ça non ? J'aime bien que vous avez eu ça comme si j'étais complètement je suis encore en Amérique moi.
Puis t'étais encore en France à l'époque.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je pense.
Oui, si.
T'es pas partie aux US depuis si longtemps non plus.
Non, mais ça fait quand même 14 ans que j'étais partie.
Non.
Bah, j'étais en Allemagne avant.
Ah oui, c'est vrai.
Comme tu sais. Et j'étais au Danemark après.
Ah oui, la meuf est international.
International. Non, ça fait 14 ans quand même.
Ok.
Donc j'ai droit de dire, vous en France, vous avez des émissions comme ci, comme ça, que j'ai tout raté. J'ai jamais vu Top Chef de ma vie, j'ai jamais vu Koh-Lanta de ma vie. Voilà.
Et c'est pas l'occasion de récupérer ou ça t'intéresse ?
Ah non. Certainement pas. Non, Fibre Tigre dit un truc très cool dans ton podcast, qui est que la création, c'est pas mal de régurgitation et qu'il faut faire attention à ce qu'on se met dans la tête pour savoir ce qu'on va produire à l'arrivée. Et en tant que chroniqueuse, il faut que je produise des idées originales. Je ne peux donc pas consommer la même chose que tout le monde, sinon j'aurai les mêmes idées que tout le monde parce que je ne suis pas un génie. Donc c'est très important justement de ne pas regarder Koh-Lanta et pas regarder Top Chef quand tu fais mon taf.
Ok. Et qu'est-ce que tu vas regarder de ce fait-là ?
Là, ah bah, du coup, bon, j'ai regardé Netflix Criminal hier soir, ouais. Parce que c'était Kit Harington, donc c'est mon côté nerd. Bah, voilà, justement, c'est mon côté nerd qui s'est exprimé. J'ai regardé Jon Snow, et là, je viens de finir un bouquin d'une copine, Catherine Dufour, qui s'appelle Le bal des absents, une histoire de maison hantée. Voilà, okay. Ça, c'est le dernier livre que j'ai lu et que je me suis mis dans la tête.
Et de ce fait-là, t'as pas ce truc où tu cherches aussi à regarder ce que le reste des gens regardent pour peut-être avoir un point de vue différent dessus ?
Non, tout le monde fait ça, je pense.
Okay.
C'est possible, mais dans ce cas-là, tu deviens un tweetos, quoi. Ou une tweeta, je sais pas comment est-ce qu'on féminise. On voit bien les gens qui arrivent à mettre la bonne punchline au bon moment en faisant la bonne association d'idées sur les trucs que tout le monde connaît. C'est intéressant, je trouve ça, quand c'est bien fait, c'est super. Mais par contre, moi, ça m'intéresse pas du tout parce que, déjà, comme tu le dis, il me faudrait 4 ans pour rattraper le game, ouais. Mais même, tu vois, les trucs sur la musique, le tueur de ta vie et les trucs comme ça, qui sont les personnes qui passent à quotidien, alors que je suis dans l'émission quasiment tous les jours, je sais pas qui c'est, 90% des gens qui passent sur le plateau, donc je suis obligée de réviser les fiches.
Okay.
Parce qu'il y a plein de vannes, plein de trucs que je vois sur la twittosphère française, je comprends absolument rien à ce que les gens racontent, et je pense que voilà, ça viendra naturellement, mais c'est aussi un truc que j'ai pas envie de faire.
Ok. Je me demande si je fais une digression tout de suite par rapport à cette histoire de punchline, mais je pense que je vais faire un grand saut dans le temps pour parler de ton actu très récente en fait, parce que tu t'es retrouvé. Enfin, la première fois que j'ai entendu parler de toi, je me suis dit tiens, Maya est à la télé, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es retrouvé au milieu d'un. Comme tu as dit toi-même, un bad buzz en fait.
Oui, tout à fait. Complètement involontaire, un truc qui est sorti de nulle part. Partie d'un événement qui ne s'est pas produit. Enfin, vraiment, l'espèce de bulle médiatique dans toute sa splendeur, il ne s'est rien passé, mais il y a quand même 150 000 articles qui ont été écrits. Et ça, c'est très bizarre quand même.
C'est ce que j'allais te dire, c'est que j'ai la sensation en fait que t'as créé une punchline sans vraiment en avoir ni l'envie ni l'intention.
Tu parles du coup de ce que j'ai fait en plateau avec Marina Foïs
et Jonathan Cohen, où tu parles du film Énorme, et en fait tu viens raconter ce que le personnage de Jonathan Cohen fait dans le film, qui est une entrave à l'IVG.
Oui.
tu viens remettre un peu de contexte juridique
oui,
en fait.
Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que je travaille avec des juristes, avec des médecins. Enfin, pour pas raconter n'importe quoi sur la sexualité, je suis très entourée. Et je me permets de rappeler que ce que le personnage fait dans le film, c'est répréhensible pénalement. Mais voilà, et ensuite c'est un film, et en plus c'est un film que j'ai vraiment bien aimé.
Oui.
Donc je voulais absolument pas faire un bad buzz au film, et pourtant c'est ce qui s'est produit. Ça a été monté en épingle comme le fait que on peut plus rien dire, puisque on est rappelé à l'ordre, mais moi je rappelle pas du tout à l'ordre, je dis juste que dans la fiction tu fais ce que tu veux, mais justement dans la réalité tu peux pas. Et en fait, Marina Foy, ça fait une tête un petit peu bizarre à ce moment-là sur le plateau. Mais on n'était pas du tout fâchés, puisqu'on a discuté en repartant après cette séquence-là. Donc il n'y a absolument pas eu de clash du tout, du tout. Et c'est devenu un clash qui m'a dépassé complètement. Et puis maintenant, je suis contente parce que ça s'est un peu arrêté. Parce qu'ensuite, il y a Vincent Cassel qui a...
Oui, Vincent Cassel a réagi dans C'est à vous, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, non, c'est fou pour un truc qui ne s'est pas produit quand même.
Et j'ai vu que derrière, tu avais fait un tweet très marrant dessus. Faut réagir.
Alors, faut pas trop me chercher quand même. Je veux pas faire de punchlines sur Twitter. Mais c'est terrible à dire, mais mon métier, c'est de faire de la rhétorique. Vaut mieux pas m'attaquer sur des choses qui ont très haut mot, généralement, parce que normalement, je peux répondre. Et là, il m'a saoulé, Vincent Cassel. Donc effectivement, je me suis permis un petit tweet narquois. Qui a suscité ensuite d'autres articles dans la presse.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est...
Oui, j'ai remis une pièce dans la machine, je le savais au moment où je le tweetais, mais il m'a tellement énervé que je me suis dit, je vais lui faire un headshot, et voilà. Mais je ne regrette pas.
Et pour...
Et ensuite, apparemment, Hanouna a repris le truc,
ah bon
encore après. Ouais, c'est ce okay. que... Ouais, ça ne s'arrête jamais, quoi.
Mais c'est normal, parce que t'es un peu... Non mais en vrai, si on regarde objectivement, Quotidien c'est une des émissions les plus regardées aujourd'hui à la télé quoi. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est plutôt bien foutu, on reprend les morceaux, les meilleurs morceaux, etc. Était la nouveauté en fait, enfin l'une des nouveautés de cette rentrée, ça va tu veux
Je ferme la fenêtre pour qu'on s'entende mieux. Oui, ils sont venus me chercher pendant le confinement, promotion confinement. Je pense qu'on est très peu à pouvoir prononcer ces mots dans la même phrase. Et c'est vrai que faire être une nouvelle tête à la télé française et lors de son deuxième jour de travail, créer un bad buzz, c'est une belle entrée en matière.
Ouais, et d'un autre côté, je pense qu'ils t'ont fait venir un peu aussi pour ça, quoi.
Mais je pense pas, parce que moi, je pensais que ça ne se produirait jamais, en fait, un truc comme ça. Donc
ah ouais
j'ai été très surprise. Moi, l'objectif de ma chronique, c'est de faire en sorte que sur les sujets hyper casse-gueule que je traite en permanence, qu'on puisse trouver une manière de parler avec son oncle raciste, avec sa mère grossophobe, et que toutes les thématiques liées au corps, je puisse à la fois faire de la pédagogie et à la fois dire qu'on n'est pas obligé de forcément être dans le conflit permanent. Donc ça m'embête un petit peu d'avoir suscité le conflit alors que j'essayais de susciter une réconciliation et un dialogue ouvert. Et je pense que c'est aussi assez formateur comme petit micro-événement. Là, en fait, ce qui a rendu la chose possible, c'est qu'on a pu juxtaposer le visage d'une actrice et moi qui tiens un panneau, alors qu'il me semble que dans la réalisation de l'émission, par exemple, cette image-là n'existe pas. Il faut la reconstruire. Voilà, donc c'est une invention de Twitter, ça par exemple. Et je me dis, enfin, je vais pas m'auto-censurer, mais c'est bien que je sache maintenant que quelqu'un qui a envie d'inventer un buzz peut se servir d'images comme ça et les mettre à côté alors qu'elles n'ont pas été à côté. Il faut faire attention, quoi.
Qu'est-ce que ça dit, l'époque ?
Ça dit que notre cerveau est un espace publicitaire disponible autant que possible et que s'il n'y a pas grand-chose dans les news, parce que je pense que c'était aussi le cas ce jour-là, il ne se passait pas grand-chose, les gens l'inventeront.
Ok.
C'est commercial en fait.
Et ça ne te fait pas peur toi aujourd'hui par rapport à cet relatif anonymat dans lequel tu étais depuis parce
Mais
que
je peux repartir en fait.
C'est vraiment ton
Si c'est
truc.
La catastrophe, mais moi je rentre aux États-Unis, je suis résidente américaine, j'ai mon appartement encore là-bas que je sous-loue pour l'instant. Je peux repartir dans mon pays tout de suite, demain.
Tu
voilà.
Tu n'as pas de pression.
Ah non, 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 vraiment pas.
Ok. Non mais c'est cool.
Oui, non mais c'est le même travail que je fais depuis 15 ans, sauf ouais. qu'on me met du maquillage sur le visage à la fin de la journée et qu'ensuite je vais le lire à voix haute. C'est c'est pas un métier plus nouveau que ça, en fait. Ouais.
T'as quand même conscience que c'est pas le même impact quand t'écris une chronique dans Le Monde, avec tes mots, machin, et que tu décides de venir le faire à la télé, où t'as en plus des gens qui interagissent. C'est-à-dire que la tête de Marina Foïs, elle est sur le plateau, et en fait, il faut la filmer, quoi, tu vois, à ce moment-là.
Oui, mais non, ça me perturbe pas du tout. Okay. En plus, tu sais, là, on est quand même en post... on est toujours dans cette histoire de pandémie. Donc, de toute façon, tu portes le masque tout le temps. Donc, même quand je marche dans la rue, personne... Enfin, j'ai pas du tout à payer les conséquences du fait d'être visible dans l'espace public en ce moment. Et comme ça risque de durer encore un petit bout de temps, en fait, je suis très, très tranquille.
C'est intéressant.
J'écris mon texte habituel et je le lis, c'est tout.
Ok. Fin de la digression. C'est intéressant, en fait, parce que ton parcours, j'ai l'impression que ta présence aujourd'hui chez Quotidien, elle est aussi le reflet du fait que tout le travail que tu fais depuis 15 piges, il est en train de payer sociétalement. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est-à-dire
que tu te retrouves chez Quotidien aujourd'hui à avoir une chronique sexe, à cette heure d'immense écoute.
Oui, il y a une seule chronique qui est sexe dans la semaine. Donc c'est 4 fois par semaine, et donc c'est 3 chroniques sur le corps en général. Oui. Donc là, bon, il y a eu plein d'actu sur les lycéennes qui voulaient montrer leur nombril, sur les femmes et tout. Mais hier soir, c'était prostate pendant 5 minutes. Et c'est génial de pouvoir faire ça et de faire une démonstration et de montrer un sextoy prostatique et de faire un dessin pour expliquer où c'est et à quoi ça sert. Ça, c'est absolument génial. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup été surprise du fait que la télé soit si frileuse sur les questions de sexualité, alors que, à commencer par le podcast ou la bande dessinée ou les livres ont abordé ces sujets depuis hyper longtemps. Et il y a toujours cette espèce de sacralisation de l'enfant qui est... il ne faut pas qu'un enfant entende parler de sexualité alors que tu parles qu'un enfant entend parler de sexualité en permanence de toute façon sur Internet. Et je suis vraiment hyper contente que la production de Quotidien ait, je pense, une vocation militante dans le fait de m'embaucher en disant nous, on pense que dans la mesure où tu as accès à 11 ans à la pornographie, c'est peut-être pas mal qu'au même âge, tu puisses avoir quelqu'un qui parle en plateau de manière raisonnable des questions liées à la sexualité. Et ensuite, moi, il se trouve que je suis pas quelqu'un qui emploie des gros mots et tout. Enfin, t'as eu aussi beaucoup un moment ce traitement très vulgaire de la sexualité, où si on parlait de cul, alors il fallait dire bitch ass couille tout le temps, et que ce soit dégoulinant et que ça ricane. Quand tu fais pas ça du tout, en fait, t'es pas du tout en train de projeter une espèce de gêne sur les téléspectateurs qui, à mon avis, en fait, mirror un petit peu la manière dont toi, tu leur donnes l'information. Et c'est vrai que, comme moi, je le dis très naturellement, je pense que ça met pas les gens mal à l'aise et que, du coup, tu t'as pas besoin de rougir, t'as pas besoin de rire. Enfin, c'est bon, c'est juste du sexe, quoi.
Avec quel regard tu perçois ton parcours, justement? Tu vois, tu disais que ça faisait presque 15 ans que tu parlais plus du tout de ta propre sexualité.
Oui, tout à fait, je racontais ma vie, ouais.
Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, ça va, c'est fait. Maintenant, il faut peut-être que je passe à parler un peu plus de la chose, du sexe en tant que tel.
Ouais, parce que ça m'a intéressée aussi en tant que féministe. L'intersection entre le sexe qu'on fait et le sexe qu'on a, elle est évidemment toute naturelle. Donc c'est vrai que ça me permettait d'être féministe par d'autres moyens. C'est plus engageant, notamment pour des mecs qui des fois ne sont pas très concernés par le féminisme, de les ramener à ta cause par la sexualité, par le plaisir. Mmh. Et ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup. Et les arguments des féministes qui ne sont pas d'accord avec moi sont excellents, mais je pense que les miens sont excellents aussi.
C'est quoi les arguments ?
C'est que... il faut accepter de déplaire aux hommes, de ne pas les aimer et qu'ils perdent des choses avec le féminisme. Je suis beaucoup plus optimiste que ça. Je pense que le fait d'aimer les hommes permet d'avoir du pouvoir politique sur eux et de continuer à les aimer en permanence, et que de toute façon, quand c'est ton orientation, tu ne choisis pas. Et que je pense que les trucs que les mecs pourraient perdre avec le féminisme sont tellement peanuts par rapport à ce qu'ils pourraient gagner que je suis d'une sincérité totale quand j'ai l'impression de faire œuvre de bienfaisance pour l'humanité en étant féministe. Et voilà. Et donc, je suis absolument pas dans le conflit. par exemple. Pour moi, le féminisme, c'est une manière de résoudre les conflits, pas de les créer. Donc, quand on parle de guerre des sexes, je comprends pas la question. Parce que c'est, au contraire, c'est trouver plein de stratégies pour que ça se passe bien. Et en plus, ça marche. Donc, super.
T'as la sensation qu'il y a un peu un conflit de génération, comme ça ?
Un petit peu, ouais.
Ouais.
Mais ça m'intéresse, le conflit de génération.
Okay.
Je trouve ça super cool d'être challengée par des nanas qui ont la moitié de mon âge. Puisqu'à 42 ans, je pense que ouais, je me tape bien dans la figure les filles qui ont 21 ans en ce moment. Et je la comprends, leur rage, leur énergie, le fait qu'elles aient besoin de des fois taper très très fort, parce que c'est aussi hyper formateur. Donc des fois, tu peux faire un tout petit peu punching bag pour des nanas qui sont fondamentalement dans ton camp et qui ont décidé que fondamentalement être détestées, mais ça, c'est pas grave. C'est leur problème, pas le mien. Par exemple, moi, je ne les déteste pas. Mais je suis un petit peu surprise quand je me prends les putes, les trans, les queers en pleine tête, alors que j'ai aucun problème avec le travail sexuel. J'étais une petite fille qui voulait devenir un garçon. Et je sais bien qu'en tant qu'hétéro, on n'a pas le droit de se revendiquer queer. Mais quand t'es hétéro et que t'as pas une sexualité hétérosexuelle, alors t'es quoi si t'es pas queer, exactement ? Donc c'est des querelles de mots comme ça et de sensiblerie aussi par rapport aux mots, d'une certaine fragilité, mais qui était celle que j'avais à cet âge-là aussi. C'est vrai que ça doit être insupportable d'avoir des gens comme moi en face, parce qu'on est, quelque part un peu, des fois suffisant, un peu confortable dans nos idées, parce que ça fait très longtemps qu'on fait ça. Et voilà, toute ma sympathie... auprès de ce conflit intergénérationnel qui est fécond, en fait. Qui est fécond pour moi, parce que ça force à vous remettre en cause des idées, parce que des fois, la jeune génération très énervée qui arrive a des points super intéressants, et c'est fécond pour elle de se dire elle fait chier, cette nana qui parle de sexe tout le temps, parce que c'est vraiment nul ce qu'elle fait, et elle a rien compris à la vie. Et bah, dans ce cas-là, les meufs, allez-y, parce que c'est plutôt des meufs, hein, allez-y, écrivez des livres, sortez vos blogs, faites vos podcasts, et que de cette exaspération-là naissent des projets et naissent un nouveau féminisme. Moi, ça me va très bien. En fait, j'ai pas besoin qu'on soit d'accord avec moi, sinon je ne ferais pas ce métier.
C'est très intéressant ce que tu dis.
Mais c'est ça, tu vois, c'est
le truc. J'ai l'impression que t'as un rapport apaisé aussi à ça, qui est cool.
Oui, tout à fait. Mais parce que tu vois, quand tu mentionnes ma science-fiction, c'est ça, c'est le conflit intergénérationnel. Donc c'est un truc qui, moi, m'a tellement porté que je peux difficilement reprocher aux jeunes générations ce que j'ai moi-même fait à cet âge-là et qui a été hyper formateur. Et c'est vrai que
tu peux remettre un peu de contexte ?
Ah oui, bien sûr. Alors nous sommes, je crois, en 2004 à ce moment-là, donc au temps des dinosaures une fois encore. Et moi, j'étais vraiment passionnée par des choses que je lisais dans la presse, qui sont que encore aujourd'hui, les personnes de plus de 60 ans sont l'immense majorité des députés, des sénateurs, possèdent 80% de l'argent qui circule en France, ont tous les postes de pouvoir. Donc ce truc qu'on pourrait dire aujourd'hui qui est le vieux mâle blanc hétéro, moi je me suis vraiment focalisée sur vieux avant tout, vieille avant tout. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle « Rien ne nous survivra », qui est toujours disponible chez Folio SF, donc il est en poche, il coûte pas cher, achetez-le. qui est un roman où les jeunes de moins de 25 ans décident de tuer tous les vieux. Et toutes les personnes de plus de 25 ans doivent être tuées d'une balle dans la tête, d'une explosion, de tout ce qui nous fera plaisir. Et c'est un roman auquel je tiens énormément, 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 parce que... maintenant qu'on a eu Greta Thunberg, qu'on a effectivement des rapports intergénérationnels qui sont aussi intellectualisés comme étant des rapports parfois intrinsèquement conflictuels, parce que c'est la nature de notre cerveau et c'est la nature de notre société. Je suis contente de voir que tout ça rentre dans l'actu, et c'est marrant parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit « mais c'est fou, rien ne nous survivra » et un peu plus d'actualité chaque année. Et c'est pas un best-seller, c'est un long-seller, c'est un livre qui se vend un peu tout le temps. Parce que cette thématique du conflit intergénérationnel reste quelque chose qu'il faudrait creuser de manière plus soutenue. Il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'on reproche au genre, qui, à mon avis, ne sont pas des questions de genre, qui sont des questions d'âge. Et notamment, qu'est-ce qu'on va faire tu vois, quand il y a des grandes paniques sur, je sais pas, les viols collectifs, sur la présupposée ultra-violence des jeunes, c'est des débats qu'on a en ce moment sur BFM TV, sur CNews tout le temps, de l'ensauvagement. C'est un truc que génération après génération, on répète. C'était déjà le cas avec les blousons noirs dans les années 70. Et l'exergue de « Rien nous survivra », c'est une phrase attribuée à Socrate. Donc on est il y a 2400 ans, et Socrate dit exactement ça. Les jeunes aujourd'hui ne respectent plus rien, ils parlent mal. Et voilà. Et quand on dit « mais c'est terrible ce qui se passe avec, je sais pas, la pornographie sur Internet, avec les jeunes garçons qui violent les jeunes filles », ou alors avec les jeunes filles qui veulent se pointer nombril à l'air au lycée, avec l'impression que c'est maintenant parce qu'on sera à la fin d'une civilisation, mais alors absolument pas. Et c'est pas une question des garçons qui seraient intrinsèquement agressifs et des filles qui seraient intrinsèquement séductrices. C'est une question d'âge, et c'est une question de, à 14 ans, quand t'es en train de construire toi-même, la violence et la séduction sont des super moyens de réussir à savoir qui on est, rapport au risque, aux limites, et des cerveaux qui sont pas complètement terminés, où il y a besoin de prise de risque. Et tant qu'on n'aura pas adressé ce problème-là, qui est qu'est-ce qu'on fait de l'adolescence dans une société pacifiée, alors on aura la même surprise de voir des jeunes ultra-violents à chaque génération, qui sont toujours les mêmes jeunes depuis... qui sont les jeunes des autres espèces aussi, hein. C'est pareil chez les animaux non humains.
Et tu crois pas que cette violence va s'exacerber au fil...
Non. Attends, j'y crois pas une seule seconde.
Attends, j'allais dire, tu crois pas que cette violence va s'exacerber au fur et à mesure où la planète va s'amocher, et il va y avoir une forme de comment dire, toujours ce spectre de la fin du monde, en fait. Et je pense que quand tu as 16 ans et que tu te dis, ok, en fait, c'est la planète sur laquelle on va vivre, et qu'en fait, vous êtes déjà vieux, vous avez déjà un pied dans la tombe, et en gros, vous continuez à avoir la main sur les décisions globales. Tu crois pas qu'à un moment donné, il va
La ligne, elle va bouger spontanément, parce que pour l'instant, en fait, j'ai l'impression qu'entre la génération X, millénial et Z, on est dans le même panier. C'est-à-dire que moi, la crise économique, le premier choc pétrolier en 73, je suis pas encore née. J'ai grandi dans un monde où on m'a dit que je trouverais pas de travail, et que c'était la crise, et qu'il y avait du chômage, et que tout ça irait très mal. On nous disait qu'il y aurait plus d'éléphants en l'an 2000, quand j'étais enfant à l'école. Le point de friction, il est entre les boomers et tout le reste des jeunes générations, et les boomers, dans 20 ans, ils vont mourir. Donc à ce moment-là, il va falloir réinventer un autre conflit générationnel, puisque pour l'instant, il ne se décale pas dans le temps. Moi, je n'ai pas l'impression que la génération Zen, elle en veuille à la mienne du tout. On est trop proche dans le temps, et surtout, on est trop proche dans les galères. Nous aussi, on subit, et ma génération, elle n'est pas encore en situation de pouvoir. Ça commence à changer, parce que politiquement, on voit des responsables qui sont plus jeunes, à commencer par Macron, qui a exactement mon âge.
Oui, c'est vrai.
Très bonne cuvée, 78. ça commence à changer, mais qui a la thune et qui refuse de changer de mode de vie, c'est pas moi. C'est mes parents.
Ok.
Et mes grands-parents, qui sont encore en vie, par exemple.
C'est vrai.
Voilà.
C'est l'un des soucis aussi, c'est que, enfin, oui. Souci entre guillemets, hein, c'est que plus
si,
ça,
si, c'est un souci, il faut
plus
le dire.
Ça va, plus ça va, plus on vit vieux aussi. Donc, mon père n'avait plus ses grands-parents quand il avait notre âge.
Oui, tout à fait. Mais je pense que morts. Tu vois, ma génération, mais on pourrait faire passer n'importe quelle loi pour améliorer l'environnement, où on serait pas en train de manger du melon. Là, on a le droit, on est en septembre, c'est encore du melon d'ici. où nos déplacements seraient limités, où il faudrait faire très attention à ce qu'on fait. Je pense que, sincèrement, ma génération à moi voterait tout de suite, alors que j'ai vraiment l'impression que à 50, 55 ans, par contre, t'as les gens qui disent... qui ont grandi dans les Grandes Glorieuses et qui ont le sentiment de entitlement, que ça leur est dû, et qu'ils ont mérité, et qu'ils ont bien travaillé, et qu'ils ont bien droit de faire n'importe quoi et de bouffer 14 kilos de viande sans se poser de questions sur rien.
Waouh.
Well.
écoute, on va isoler ce moment. Rendez-vous dans 10 piges.
Ouais, voilà.
On reviendra le commenter.
Ah non, mais Rien ne nous survivra, c'est 2004, et
ouais.
On est 15 ans plus tard, et j'ai toujours pas changé d'avis sur le conflit intergénérationnel. Et je pense que c'est une ligne de fracture qui est beaucoup plus pertinente que de savoir si on est des hommes ou des femmes, par exemple. Donc, comme je suis féministe, mais c'est pas du tout ma grille de lecture essentielle ou même primaire.
Et puis, il faut savoir un autre truc, c'est qu'en France, on fait partie des pays de l'OCDE les plus dur en termes de différence de richesse entre les boomers et les plus jeunes. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas cette transmission qui se fait comme dans plein d'autres pays civilisés, entre guillemets. Quoi. C'est ouf, hein.
Ouais.
On est dégueulasse avec notre jeunesse, on la traite mal, quoi.
Oui, complètement. Et c'est vrai que la colère qui s'exprime, elle est parfaitement légitime. Et que si des fois elle peut aussi s'exprimer envers nous, c'est que justice, très bien.
J'aimerais bien reparler de ton parcours aussi de globetrotteuse, tu vois. Parce que j'ai un peu l'impression qu'en fait, tu étais prête au monde d'après avant même que le monde d'après arrive. En fait, c'est que tu as toujours travaillé de l'étranger pour alors des médias français d'une manière générale ou à ton compte.
Et c'est ça, ouais. Je suis ce que Alain Finkielkraut appelle une anywhere. J'habite n'importe où.
On va vraiment citer Alain Finkielkraut dans ce podcast.
Non, mais j'écoute religieusement Alain Finkielkraut dans Réplique sur France Culture tous les samedis.
Pourquoi tu l'écoutes ?
Parce que c'est important de savoir contre qui on se bat. Et parce que... non, il dit des choses absolument monstrueuses. Il me révolte. Mais sur certains sujets, je le trouve drôle et tendre. Et on a droit de ne pas avoir d'opinion très tranchée sur les gens. On a droit d'aimer un truc chez les gens qu'on déteste... de détester un truc chez les gens qu'on aime. J'écoute Finkielkraut parce que cette panique de l'ancien monde face au nouveau, elle est délicieuse en fait à écouter quelque part. C'est comme un espèce de petit bonbon hebdomadaire de l'entendre s'offusquer de choses. Parce que je pense qu'il est intelligent, mais par contre c'est intéressant de voir à quel moment tu refuses d'appliquer ton intelligence. La question du genre, la différence entre le genre et le sexe, c'est pas hyper compliqué à comprendre. Et il refuse de comprendre. Et il fait des erreurs rhétoriques basiques quand il s'exprime là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a très peu de contradicteurs ou de contradictrices sur ces sujets-là. Et tu te dis, s'il faisait l'effort, il pigerait très bien de quoi on parle. Il a pas envie de faire cet effort. Et ça, c'est ce qu'on peut aussi reprocher aux personnes âgées quand elles décident de solidifier leur certitude. Et c'est pas le cas de toutes les personnes âgées. Des gens comme... le philosophe qui a fait Petite Poussette, Michel Serres, ou Umberto Eco, ou je sais pas, Christine Delphi. C'est des gens qui arrivent à vraiment continuer de progresser jusqu'au très très grand âge, parce qu'il reste le doute et il reste quelque chose de magnifique que normalement on t'acquiert avec l'âge si tout se passe bien, qui est aussi une forme d'indulgence par rapport à ce qui vient après. Et tu vois, et quand je dis que je suis d'accord avec le fait de des fois servir de punching bag chez les jeunes féministes, c'est parce que mon âge me permet d'avoir une indulgence qui n'est pas de la condescendance, qui est que l'âge et l'expérience me permettent de comprendre. Et chez certaines personnes, malheureusement, l'âge empêche de comprendre. Et je pense que c'est une grosse discipline à conserver tous les jours, qui est de rester flexible et de rester molle à l'intérieur, de pouvoir changer d'avis sur des choses qui sont très importantes et de pouvoir être déplacé, pouvoir être bousculé. Et quand t'arrêtes de faire ça, alors tu glisses très vite. Donc il faut faire attention.
C'est très marrant, ça me fait penser à une anecdote où j'étais à l'Apple Store en train d'attendre un gars et il y avait un autre mec à côté de moi qui était en train de galérer avec son Mac et tout, tu vois. Et il vient réclamer, je sais pas quoi, une mise à jour, mais il a 50, 55 ans, quoi, tu vois, il est pas croulant, quoi. Et le mec lui explique, bah voilà, en fait, tu fais ça, machin, tout ça. Et puis il fait, ah, je comprends pas, c'est parce que c'est un peu dur à mon âge et tout. Et le gars de l'Apple Store lui a répondu de façon très cool, mais en fait, monsieur, c'est pas parce que vous vieillissez qu'il faut arrêter d'être curieux. Souvenez-vous quand vous aviez 14 ans et que vous étiez en train de bidouiller votre mobylette parce que vous trouvez ça marrant, il dit bah là c'est exactement pareil en fait. Et vraiment, le mec, il a pris son ordinateur, il est reparti. Et je trouvais que c'est vrai que peut-être en vieillissant, on a un peu cette tendance à perdre une forme de curiosité que tu pouvais avoir quand tu étais plus jeune, quoi.
Oui. Et puis là, sur les questions numériques, en plus, si tu passes du mauvais côté de la fracture et que tu peux plus déclarer tes impôts, là c'est très dur par contre, parce qu'il y a une transmission qui s'est pas opérée. L'idéal serait de rester ouverte à absolument tout le temps et de pas dire par exemple « Oh là là, c'est de la musique de jeunes, moi quand j'étais enfant c'était la symphonie et l'opéra et maintenant c'est Maître Gims » et de pouvoir dire « Ok, bon alors ça marche, écoutons au moins. Mais c'est vrai que ça demande un effort de des fois penser contre soi, penser contre ses habitudes. Mais l'alternative, c'est mourir un peu. Donc, faut le faire.
On a digressé, mais on a digressé sur Finkielkraut.
Voilà, maître Gim, c'est Finkielkraut.
Est-ce que tu pourrais me raconter qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à un moment donné, de te dire « Ok, en fait, j'ai envie de bouger dans le monde. » Alors, ce qui est plus fort, tu peux plus le faire, ça, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais tu avais vraiment cette envie de te dire « Ok, en fait, je peux travailler de n'importe où, juste grâce à mes doigts et à mon ordinateur, et je peux travailler pour plein de gens, quoi. »
Oui. Ceci dit, quand je me suis expatriée, donc d'abord en Allemagne, pendant 5 ans, j'ai immédiatement perdu tout mon taf. Hein. Donc,
à l'époque, c'est vrai.
Ouais, je bossais pour Fluctuate.net, qui était un mag culturel, et pour je sais plus qui, je devais faire des piges dans la presse écrite quelque part. Et en fait, mes deux employeurs m'ont licencié, enfin m'ont viré en fait, au bout de 6 mois, parce que le fait que je sois pas présente dans la pièce les dérangeait. Donc on est, à mon avis, à ce moment-là, en 2006, quelque chose comme ça. Et il a fallu rebâtir des relations qui ensuite ont toujours été construites sur le fait que je sois pas là. Donc paradoxalement, c'était plus simple. Mais entre-temps, ça veut dire que, tu vois, j'ai bossé pour La Fraise, qui était une boîte de t-shirts, pendant 8-9 mois, un truc comme ça, à faire du business development, qui est pas du tout mon travail, parce que comme journaliste, j'y arrivais pas. Alors que ça marchait plutôt bien, ce que je faisais avant. En fait, quand tu laisses pas aux gens le choix, c'est beaucoup plus facile. Moi, de toute façon, j'étais pas là, donc j'ai fait tous mes trucs à distance, et puis j'ai été recrutée par GQ, et puis j'ai été recrutée par Le Monde. Et c'est vrai qu'entre-temps, bah, j'ai habité ensuite au Danemark, et après je me suis expatriée aux États-Unis.
Ok.
Et c'était effectivement une volonté assez rapidement de... Alors, c'est pas que je veux absolument pas vivre en France, mais c'est vrai que l'expatriation apporte tellement de choses, et t'es tellement dans des systèmes de pensée différents... Parce que les gens pensent pas comme toi. En fait, là, c'est vraiment le grand luxe de pas être complètement dans le monde d'après. C'est-à-dire qu'on dit toujours, mais c'est la planète globiche, tout est uniformisé, c'est terrible, il y a des Starbucks au fin fond de la savane. Non. En Allemagne, c'est déjà pas tout à fait les mêmes personnes. Au Danemark, je pense que j'ai vraiment changé. Par exemple, je pense que la Scandinavie m'a profondément changé en tant que personne.
Dans quel sens ?
Le fait d'arrêter de me plaindre, là j'ai arrêté de devenir, j'ai arrêté d'être ce qu'on reproche aux Français dans le monde et qui est très justifié, qui est d'être tout le temps en train de se plaindre, parce que effectivement j'étais en train de dire ouais c'est très compliqué, on peut rien faire, on peut plus rien dire et tout, et au Danemark à chaque fois que je disais un truc comme ça ou que je disais il fait froid ou il neige, les gens me disaient bah habille-toi mieux, bouge plus, t'as un problème et comment on le résout et tout, c'est quoi ton architecture pour répondre à tes soucis, mais des choses triviales aux choses existentielles. En fait, il fallait toujours trouver des solutions pour tout. Et j'ai trouvé ça hyper violent quand je suis arrivée, le fait qu'on ne me laisse pas me plaindre, jamais. qu'on m'envoyait chier, grave. Et j'ai gardé ça, maintenant complètement, parce que des choses que je pensais insolvables dans ma vie ont été résolues finalement très facilement avec des arborescences McKinsey de « t'as un problème, et bah écoute, on va essayer comme ça, on va essayer comme ça, on va essayer de faire comme ça. » On m'a proposé des séances de coaching que j'ai prises, des coachings professionnels pour atteindre des objectifs. Enfin, ça fait une vie qui est très rationalisée, mais en même temps, ça marche. Donc je suis, même si je dirais que le Danemark a un peu cassé quelque chose en moi, ça a aussi réparé autre chose. Et voilà, reconnaissance au monde magique de la Scandinavie et de Startup Nations de là-bas.
Ça a cassé quoi, tu penses ?
Ouais, le fait de... Ouais, le fait de penser que j'étais spéciale et qu'on m'écouterait parce que je suis moi. C'est la loi danoise. C'est un nom que j'ai un peu oublié. Mais c'est des règles de vie. T'es pas spéciale, t'es pas meilleure que les autres, t'es pas plus intelligente que les autres, t'es pas plus drôle que les autres. Et c'est très bien de se rappeler de ça, en fait. Donc, tu perds du narcissisme, mais tu gagnes en humanité, ce qui est pas dégueulasse, fondamentalement. Donc ça, c'est la Scandinavie. Et puis ensuite, là, les États-Unis, là, c'est embrasser le chaos, quoi. D'un seul coup, tu te projettes dans un pays qui est complètement brisé. Et puis là, on enregistre cette émission et la juge suprême est morte. On l'a appris ce matin. Donc, enfin, au cas où les États-Unis partiraient pas déjà en flammes, là, on est reparti pour un gros problème qui commence maintenant. Et donc, non seulement tu t'inscris dans une tradition de personnes qui sont allées s'installer loin, dans un pays qui est incompréhensible, tortueux, chaotique, extrêmement clivé. Et tu dis que bah, ça va être ça l'histoire, qu'il va falloir que tu acceptes que tout soit cassé autour de toi. Et c'est là que tu t'aperçois que la France, ça marche très bien. L'administration, c'est horrible, la bureaucratie, mais en même temps, on a la sécurité sociale, on a des congés payés et tout. Moi, j'ai pas de congés payés depuis, bah, depuis 100 000 ans. J'ai monté ma boîte. Il y a un an et demi, j'ai fait une septicémie. Ça m'a coûté 15 000 euros parce que j'ai pas pu taffer et parce que. Heureusement, j'étais assurée, mais la facture d'hôpital aux États-Unis, si tu tombes malade, moi, c'était 100 000 dollars pour 5 jours. Donc, j'ai pas tout payé, mais j'ai quand même beaucoup payé. Et voilà, et il faut arriver à se dire que finalement, ce que tu avais en France, c'était un luxe. Et que dans le vrai monde, si tu tombes malade comme moi, que tu attrapes deux infections en même temps, non seulement tu peux mourir, mais tu peux finir ruiné. Mais c'est ça la vraie vie de 95% de l'humanité. Donc c'est aussi intéressant de se dire, oula, un pas en arrière sur mes privilèges, et j'étais prête à... Enfin moi je pense que si Quotidien et France Inter m'avaient pas rappelé, bah j'y serais là, enfin tu vois, je suis pas sûre que je serais rentrée, et je suis pas sûre que là que je sois rentrée pour toujours.
Ok.
Parce que le chaos c'est aussi quelque chose de hyper stimulant. Les États-Unis, tu vois rien que dans la manière de s'habiller, tu vois cette espèce de folie, d'extravagance... de gens qui sont capables de prôner l'abstinence, mais aussi les orgies à 50. Enfin, tu vois, l'amplitude de la pensée, des colères, des expériences de vie est tellement plus vaste qu'en France, que ça, c'est aussi très réjouissant, très formateur de pouvoir discuter avec des gens qui ont, je sais pas, des AK-47 à la maison, et ensuite de faire une block party dans ton quartier, c'est top.
T'étais aussi dans un endroit très particulier des États-Unis, t'étais à New York.
Oui, exactement, qui est un endroit dont personne ne revient. Enfin, t'es New-Yorkais pur jus, et t'en croises pas des masses. Donc c'est aussi intéressant parce que t'es exactement aussi illégitime et légitime à être là que n'importe qui d'autre, puisque de toute façon, pas grand monde n'est New-Yorkais à New York. C'est vraiment des espèces de bulles de expatriés et immigrants première, deuxième, troisième génération. Enfin, t'es vraiment sur... sur un gros bordel, mais j'étais pas que à New York en fait. Donc j'ai fait 6 mois à San Diego, donc j'ai fait la Californie aussi. J'ai fait Pittsburgh, donc la Pennsylvanie profonde et très intéressante. Et j'ai aussi fait Fort Worth au Texas, donc du côté de Dallas. Et c'était aussi intéressant d'être au Texas à un moment.
Et là aussi, j'imagine que tu as une amplitude folle entre New York, qui est pour le coup une ville assez européenne, entre guillemets, quoi. En tout cas, plus européenne que ce que peut être Dallas au Texas.
Ah,
quoi.
Complètement. Oui, oui, bah, Dallas, c'est. T'as les gens avec les flingues et t'as les cow-boys, en fait. Et de la danse en ligne dans les bars et les trucs comme ça.
Pourquoi tu t'es retrouvée là-bas ?
Parce que mon mec est comédien de théâtre.
Ah, ok.
Donc, il faisait une pièce dans ce coin-là. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pas mal tourné aux États-Unis. Et c'est vrai que, par exemple, entre, je sais pas, Austin et ensuite... non, Austin, c'est rigolo, mais de Dallas, qui est vraiment une ville assez, assez nulle, où t'es vraiment au milieu de nulle part. C'est très moche, le Texas. Et ensuite, tu vas à San Diego et que, du coup, t'as les startups et t'as la mer et l'océan. Et c'est fou, quoi, comme pays, en vrai. Et je me dis, tiens, enfin, faudra que j'y retourne. De toute façon, j'y retournerai, c'est sûr, mais je me dis, en 5 ans, en fait, je ne l'ai pas tant visité que ça. Parce que New York, quand il y est, te bouffe entièrement, parce qu'il y a tellement de mille choses à faire, que je me dis, j'aurais dû aller faire le Montana, des trucs comme ça, l'Oregon, bref, je le ferai.
C'est Pénélope Bageux qui vivait là-bas et qui me disait...
Bah, arrivé en même temps que moi, elle est repartie quasiment en même temps que moi, hein. On était voisines.
Fou, tu vois.
Ouais.
Et en fait, on s'est croisés là-bas et elle me disait qu'en fait, les Américains, enfin les New Yorkais disent que New York, c'est une ville qui se mérite.
Oui.
Je trouve vraiment...
Oui, oui, oui. Mais il y a très peu de villes prostituées comme Paris peut l'être, ou tu vois, Paris...
De villes prostituées.
Ouais, 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 qui se donnent au premier venu comme ça, contre monnaie sonnante et trébuchante, parce que c'est cher. Mais tu vois, à Paris, tu marches le long de la Seine, en gros... c'est bon, t'as tous ces... Enfin, la Tour Eiffel, en plus, ça se voit de loin, Montmartre aussi. Donc, t'es très vite gratifié quand tu marches dans Paris. New York, bon, c'est le cas aussi, mais pour avoir des trucs un petit peu sympas, c'est vrai qu'il faut mériter la ville. Ouais, c'est pareil, Copenhague, ça donne tout de suite. Alors que Berlin, faut mériter. Mmh. Parce que c'est grand, c'est compliqué et qu'il faut savoir. Voilà.
Ok. Donc, si tu veux bien, on revient sur cette histoire de comment t'en es venu à rentrer en France, en fait ? Parce que t'avais l'air de très bien vivre ta vie.
Ah, tout à fait. Là, j'ai New York en... Alors, on n'a pas été confinés à la maison, mais tout est... La plupart des choses sont fermées encore aujourd'hui, alors qu'à Paris, on a une vie à peu près normale. Donc, c'est vrai que ça commençait à être un loyer cher à payer pour une ville dont tu ne profites pas du tout. Je crois que les musées vont commencer à réouvrir, mais en plus, on n'a beaucoup pas vu nos amis. La plupart des gens que... Enfin, moi, la plupart de mes potes sont des expats, donc là, ils sont restés, il n'y a pas de souci. Mais la plupart des amis comédiens de mon mec... évidemment, comme il n'y aura pas de théâtre avant encore au moins 6 mois, probablement beaucoup plus que ça, tous ses amis à lui sont partis se mettre en province. On a perdu beaucoup de gens, en fait.
Okay.
Donc c'est vrai que de toute façon, là, New York n'est pas vraiment... J'ai pas l'impression d'avoir perdu New York là tout de suite, mais j'ai quand même gardé mon appart.
Comment tu regardes, toi, la gestion de cette crise sanitaire avec ton œil de française aux US, versus ce qui s'est passé en France?
Ah, mais moi, j'ai été terrifiée de ce qui s'est passé en France. Le fait de confiner la population, moi, je trouve ça aberrant. Et encore aujourd'hui, le fait qu'ils fassent porter... Enfin, voilà, je ne suis pas infectiologue ou quoi que ce soit, mais quand tu vas dans un parc et qu'il n'y a personne et qu'on puisse quand même te demander de porter un masque, il y a quand même des coins à Paris où tu te dis, c'est surréaliste d'être en train de porter un masque alors qu'il est 4h du matin, que je suis dans une rue déserte. Et autoritarisme de Macron en particulier, de son gouvernement en général et tous les 49-3, je trouve ça absolument délirant. Et j'étais très 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 contente de vivre la période un petit peu compliquée de la première vague à New York, où effectivement on nous a demandé de tout à fermer la même manière, mais je suis allée au parc tous les jours. J'ai bossé avec mon ordinateur, la bibliothèque était fermée, mais... J'ai lu Madoc allongé dans l'herbe et je me disais, les Parisiens, ils n'ont pas le droit de faire ça pour des raisons qui sont complètement floues. Ça m'a inquiété ce qui s'est passé en France. Et dans une certaine mesure, comme on est dans l'arbitraire le plus total, ça m'inquiète encore ce qui se passe ici et ça m'inquiète.
Okay.
D'être dans un pays où le gouvernement peut faire ça.
Mais ça a été le cas de pas mal de pays en Europe, non? Où il y a eu ce confinement?
Ouais, mais...
Enfin, moi, j'avais la sensation qu'ils étaient un peu en train de refaire exactement ce que l'Italie avait fait, genre 15 jours, 3 semaines avant, en se disant, ça a l'air de marcher. Donc, en fait, commencez pas trop. On va peut-être faire ça.
Enfin, ouais,
tu vois,
ouais,
un peu
ouais.
Ce côté-là.
Non, peut-être, mais...
Tu crois vraiment que c'était une volonté de...
Non, je suis pas du tout dans le complotisme.
Okay, okay.
Dans le masque, c'est une muselière, pas du tout. Mais non, je pense que c'est ma claustrophobie aussi qui s'exprime. Je pense que je l'aurais hyper mal vécu d'être en France à ce moment-là et que j'étais très contente d'être dehors tout le temps pendant que... Peut-être que j'ai même été claustrophobe, tu vois, par procuration.
Okay.
Que de discuter avec mes proches en France et tout et de savoir ce qu'eux traversaient, ça m'a terrifiée. Mais c'est aussi parce que quand on est à l'extérieur, en fait, on se fait toujours une image dramatique de ce qui se passe sur place. Moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est terrible à New York, avec les cadavres dans la rue et tout. Et t'es là en train de dire, mais à New York, ma vie est parfaitement normale. Et c'est vrai que de New York, les gens me disaient, oh là là, mais c'est terrible, Paris est à feu, à sang avec les gilets jaunes. Et tu dis, bon, il y a quelques trucs qui ont cramé aux Champs-Élysées, mais c'est pas la réalité de Paris, c'est pas que Paris brûle. Et la réalité de New York, c'est que malgré Trump, malgré toutes ces manifs Black Lives Matter, parce qu'on a aussi enchaîné là-dessus, en fait, ça n'empêchait pas d'avoir une vie plutôt douce, en fait.
Ok.
Voilà, il faut faire attention aux miroirs déformants quand on est loin. Peut-être que la France, ça m'a fait peur parce que j'y étais pas, par exemple. Et que cet appartement est petit. Parce que je me disais, ah ouais, si j'avais été à Paris, du coup, ça aurait été là, quoi. Et, non.
Je comprends. Un autre truc dont j'aurais aimé te parler, c'est tes velléités de faire des dessins.
Oui.
Parce que ça c'est pas du tout dans ton truc à la base. C'est pas du tout dans ta formation. C'est pas du tout voilà. Enfin, ça m'intéressait de te demander pardon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à un moment donné dans le...
Oui, j'ai toujours dessiné, donc il y a pas de lancement en fait. Hein. C'est une histoire d'enfance qui s'est absolument jamais arrêtée. Ensuite, voilà, des fois t'as plus ou moins le temps, mais c'est vrai que il y a peut-être un an et demi, je me suis dit là j'ai du temps, ça marche bien, je gagne suffisamment d'argent pour pouvoir libérer du temps pour vraiment faire un step-up. Donc je me suis acheté une tonne de matos que du coup je n'ai pas aujourd'hui puisque tout est resté aux États-Unis. Et j'avais envie de passer à l'étape supérieure, des trucs plus grands, des trucs dont je serais vraiment contente. Et j'ai commencé à décider de travailler avec des modèles, ce qui était aussi une énorme différence. Plutôt que devoir recourir à des photos, plutôt que devoir aller à des cours de nu que j'ai toujours un peu pratiqué, mais où tu choisis pas les poses des modèles, et des fois les modèles sont mauvais, enfin c'est un travail et certaines personnes savent mieux le faire que d'autres. Je pense que c'était aussi ça le gros step-up, c'était à la fois décider de passer sur de la peinture, sur des grands formats, et d'accepter en fait d'investir de l'argent dans le dessin, donc d'avoir du matériel pro et de payer mes modèles. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'en ai gagné un tout petit peu en vendant des peintures. Je pense que je suis à peu près revenue dans mes frais et que j'ai toujours pas fini mes 10 000 heures de taf que je dois faire. Et il est temps que je retrouve des modèles là sur Paris parce que ça me manque trop en fait.
Ok.
Ouais.
Waouh. Mais l'autre truc qui m'intéressait aussi, c'était de me dire, t'as décidé à un moment donné aussi d'illustrer tes articles.
Oui, tout à fait. En fait, c'est Le Monde qui m'a proposé.
Ah, ok.
Oui, c'est eux qui sont venus me chercher pour les articles. Et puis ensuite, un an plus tard, quand ils galéraient à les illustrer semaine après semaine, et que ils aimaient bien ce que moi je faisais, ils m'ont dit, mais tu veux pas en fait t'auto-illustrer, quelqu'un résout le problème pour toujours. Et c'est super, franchement. Le fait d'avoir la main là-dessus, c'est génial. Mais en même temps, voilà, t'es plus ou moins contente de toi selon les semaines. Je vois bien que je suis pas au niveau d'illustrateurs qui sont formés, par exemple. Mais c'est pas grave, parce que justement, tu parlais de Pénélope Bagieu tout à l'heure. Voilà bien quelqu'un dont le style est en évolution constante, et c'est super cool, qui dit que tous les 6 mois, elle est pas capable de regarder les dessins d'il y a 6 mois. Et voilà, et c'est pareil, quoi. Mais en même temps, les articles que je faisais il y a 5 ans, j'en suis pas fière non plus, quoi. Donc, ouais. Faut vraiment accepter d'être en mouvement constant avec l'insatisfaction rétroactive que ça procure chez toi et qui est chouette à avoir. Si t'es horrifié par un article que t'as écrit il y a 10 ans, c'est bien que t'es une meilleure personne après, quoi.
Ouais.
Oui, tu vois, avec le mouvement MeToo, par exemple, je pense qu'on pourrait me ressortir des vieilles casseroles. Donc du coup, c'est bien, je peux le faire moi-même à la place du fait que quelqu'un me le renvoie à la gueule en disant, ouais, c'est bien quand un homme t'embrasse un peu trop vite. Moi, j'ai écrit ça. Et quelque part, une partie de moi le pense. C'est que le moment où la machine s'emballe, t'es pas dans la zone grise, en fait, parce qu'à ce moment-là, quand la machine s'emballe avec un mec et que tu commences à t'attraper, il y a tellement de sous-texte qui s'est passé qu'il n'y a pas d'ambivalence possible. Mais... Non, c'est terrible ce que je suis en train de dire, parce que du coup, ça veut dire que le mouvement MeToo devrait pas exister. Mais voilà, et donc j'ai...
Je pense aussi que c'est ton interprétation personnelle.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est ce qui se passe depuis 3 ans, c'est totalement génial. Mais c'est vrai qu'ensuite, rétrospectivement, sur les délices du mec qui te plaque contre un mur... je ris un peu jaune quand je vois ce que j'ai pu écrire moi-même, tout en sachant, et voilà, et c'est hyper bizarre, que sur un machin qui se passe hyper bien et une super bonne soirée, se faire embrasser trop vite et plaquer contre un mur, c'est quand même super génial. Si t'es d'accord. Non, mais je sais, c'est complètement inaudible ce que je raconte. Mais c'est aussi parce que, tu vois, quand je te raconte ça, j'ai des choses très précises qui me viennent à l'esprit, où en fait le consentement, il a été donné de 150 manières préalables. Ouais. En fait, les mecs, moi, ça fait bien longtemps que personne m'a embrassé de force, par exemple.
Oui.
C'est des trucs qui datent de boîte de nuit d'il y a au moins 15 ans. Donc c'est bien que le consentement passe.
Tu sais envoyer les bons signaux.
Ben, j'ai surtout aussi envoyé les mauvais signaux, quoi.
Ouais.
Je suis vraiment le truc des mecs, on peut discuter. Non, pourquoi ? Parce que j'ai pas envie. Va-t'en. Mais je fais pas de choses très polies, donc... C'est vrai que si t'es encore en train de discuter avec moi au bout de 5 minutes, c'est que j'ai plutôt envie que tu sois là parce que normalement les 5 secondes c'est dégagé.
C'est peut-être ça l'une des recettes, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pouvoir dire non et pouvoir dire oui. C'est vrai que les deux vont complètement ensemble, mais que moi j'ai la chance d'avoir été formée à dire non par ma mère très très vite. Donc ça c'est chouette d'avoir eu. Sur ce truc de parents féministes, le truc de gueuler, d'aller dire aux gens « Remettez votre masque, taisez-vous, votre musique elle est trop forte », j'ai aucun scrupule à envoyer bouler les personnes qui me marchent sur les pieds. Et c'est vrai que du coup c'est très protecteur dans la sexualité, dans la séduction, parce que t'arrives jamais en fait au point où ça dérape. Le dérapage en fait il est toujours très 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 contrôlé. Si t'es extrêmement solide dans tes convictions, mais c'est aussi un truc en fait que t'acquiers par l'expérience, qui est que par rapport à un truc qui est la drague millimétrique du mec qui s'approche doucement, et tu sais pas où mettre la limite. En fait, ça on te le fait une fois, et du coup tu te retrouves avec la langue d'un mec dans ta bouche qui devrait pas se situer là, tu vois. Ensuite, tu dis, t'arrives à un rendez-vous et tu sais exactement à quelle distance tu peux être assis à côté d'un mec, et s'il se rapproche, tu vas lui dire non. Enfin, c'est pas en se plantant que t'apprends ces règles-là, mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert que... bah non, en fait, tu vois, tu peux pas me toucher un morceau de doigt et ensuite me prendre la main, du tout. Parce que à ce moment-là, maintenant, je saurais que c'est non tout de suite et que je te le dirais. Tu vois, c'est aussi pas je recule, c'est qu'est-ce que t'es en train de faire ? Pourquoi est-ce que tu t'es venu t'approcher de 10 cm de moi ? Donc c'est pas toi qui recule, c'est le mec. Et ça, c'est vraiment important.
Très intéressant. Non mais c'est vrai. Je vais l'isoler et l'envoyer à mes filles, tu vois.
Ouais. Non mais c'est vrai.
Écoutez Tata Maya.
le truc de moi, on m'avait dit qu'il fallait apprendre à dire non. On m'avait pas dit qu'il fallait dire non 40 fois. On m'avait pas dit en fait que les mecs allaient insister. Enfin certains mecs hashtag not all men allaient réessayer 150 fois. Ça, je pense que c'est un vrai truc à dire aux jeunes. Qui, une fois que tu auras dit non, ce sera pas la fin de la conversation, ce sera le début. C'est assez délirant, tu vois. Et que ce qui passe pas par la conversation va passer par les gestes. Et sans avoir besoin d'avancer blindé dans un espèce d'exosquelette de non-consentement, il y a vraiment un apprentissage à faire qui est pas enseigné. Et voilà, ce qu'on choisit de pas enseigner aux enfants, c'est évidemment une question politique. Comment ça se fait que les petites filles comme les petits garçons soient pas formées à ça ? Comment ça se fait qu'en fait, pas à l'école, tu vois, t'apprends la généalogie des rois de France, mais que t'apprennes pas ça ? Et qui fait le programme ? Et sans rentrer dans le complot de... on donne des infos, pas inutiles, mais disons pas indispensables à la vie quotidienne à nos enfants à l'école. Et on se défausse complètement du fait qu'ils puissent être agressés, qu'on ne sait pas comment remplir une déclaration d'impôt, qu'on ne sait pas comment monter une boîte, des choses dont on a très besoin quand même, assez rapidement.
Merci Maya. Je crois qu'on a fait le tour, on a parlé 1h20.
Et on a réussi du coup à ne pas parler de la rentrée. Incroyable.
Pas parler de la rentrée.
Bah, moi, je pensais que tu allais poser plein de questions sur la télé, sur la radio et tout. En même temps, tu as raison parce que tu restes du coup dans le titre du podcast. C'est l'histoire et puis ensuite le.
Oui, alors je.
Tu t'intéresses plus au voyage qu'à la destination.
Exactement.
Mais c'est très
tu bien. Vois, on a parlé juste de cette histoire de. Justement, du fait que tu sois aujourd'hui
à la télé.
On a perdu
20 minutes sur Fibre Tigre.
Non, mais c'était trop bien. Vraiment, c'était très cool de parler de Fibre Tigre. En fait, je voulais aussi te remercier parce que je pense que tu as travaillé pour Mademoiselle, si
ah
vous
oui,
aviez pas
vrai.
Suivi.
Oui, oui.
Mais pendant 3, 4 ans, je sais plus combien de temps. En fait,
longtemps, ouais.
Pendant un petit moment.
Oui.
Et en fait, merci parce que tu as été un peu la. Le lance-roquette, tu vois, de la... Non, mais vraiment, de la ligne édito autour du sexe. que je voulais pour Mademoiselle et qu'en fait j'arrivais pas à incarner avant de te découvrir. Alors c'était tôt dans l'histoire de la boîte, hein, ouais. Tu vois, de Hussite, mais en 2008 je pense qu'on a commencé à bosser ensemble. Hein,
ouais,
si
ça devait être quelque
pas.
Chose comme ça, oui.
Et en fait derrière t'as eu plein de petites sœurs qui sont venues qui sont venues se caler et puis en fait continuer ton travail, prolonger ton travail.
Mais c'est génial.
Et
ça.
C'était trop bien. Ouais. Et en fait sans toi, je pense que j'y serais pas arrivé en fait parce que je pense aussi que et c'est marrant parce que quand j'ai vendu Mademoiselle cet été, j'ai reçu plein de messages, j'ai reçu des messages de lectrices qui ont aujourd'hui 35 ans, qui lisent depuis très longtemps et qui m'ont dit spontanément en fait grâce à Mademoiselle et à Maya, ça m'a ouvert plein de trucs sur le sexe quoi que j'avais jamais lu auparavant quoi. Donc
ah,
trop
c'est
bien.
Top. Mais c'est aussi génial de voir que l'aventure continue.
Bah ça,
que
oui.
Voilà, non mais que ça prenne des formes différentes, que ça prenne des histoires, des colères, des réflexions complètement différentes. Et ça c'est super, c'est quand la machine t'échappe, c'est le plus rigolo.
Ouais.
C'est vrai que tout ce qui se produit dans le monde de la sexualité en ce moment, toutes ces idées contradictoires, fourmillantes, énervées, apaisées. C'est super super de voir à quel point les plus jeunes et même vraiment vraiment jeunes s'emparent du truc plutôt que d'avoir une espèce d'autorité qui arrive d'en haut et qui leur dit la sexualité c'est ça. La contradiction est géniale. Donc c'est le moment où la transmission elle se fait d'une manière où tu espères vraiment que la génération d'après elle te dépasse, qu'elle soit plus intelligente que toi, qu'elle soit plus drôle que toi, qu'elle soit plus passionnée que toi. Et quand ça se produit et que je vois des nanas vraiment admirables qui arrivent derrière, je me dis « yes, elles sont tellement meilleures que moi ». Et c'est cool.
Je vois ce que tu veux dire.
Ouais.
Tiens, un dernier truc, là, tu me parles de la nouvelle génération, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut qu'on en parle, c'est intéressant. Tu vois, je vois de plus en plus les jeunes, justement, meufs qui se lancent dans le sexe, etc., qui se lancent sur Instagram. Et
oui,
qui sont en
incroyable.
Train de pester, et parce que je les comprends, contre les règles de censure Instagram, et qui se disent « Ok, en fait, je voudrais faire en sorte de changer la plateforme. » Je ne pense pas qu'Instagram va changer, parce que pour moi, Instagram, c'est les États-Unis,
oui, c'est
Zuckerberg.
Oui, c'est les États-Unis, c'est la Chine. Enfin, non, pas la Chine. non, mais ce que je veux dire, c'est que dès que tu es sur un truc globiche où tu dois plaire... tu vois, c'est le problème du jeu vidéo, du cinéma. Si tu dois plaire, si tu dois marcher sur le marché chinois, turc et américain, alors il va de soi que au niveau de la violence, tu peux faire ce que tu veux, au niveau du sexe, tu fais quasiment rien.
Et j'ai la sensation que toi, tu as toujours eu cette volonté d'avoir tes propres plateformes, alors que ce soit chez toi, sur ton blog ou ailleurs, mais tu vois, tu as eu Sex Actu, on n'en a pas parlé, mais chez GQ pendant très longtemps.
Oui, tout à fait, mais
longtemps.
C'est aussi un truc, très bien, puisqu'on fait de la transmission, faut pas appartenir à une boîte. Moi, j'ai monté la mienne et c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est que par exemple, tout ce que je produis m'appartient parce que je le facture, donc je suis salarié de personne à part de ma propre boîte. Et ça me permet, par exemple, quand je fais des livres qui compilent mes chroniques au Monde, de récupérer 100% des droits, alors que normalement, tout leur appartiendrait. Là, j'ai quitté GQ il y a quelques mois. J'aurais pu, parce que c'est dans le contrat que je n'ai pas signé, mais dans notre accord, repartir avec les 15 dernières années d'articles de Sex Actu qui m'appartiennent toujours. Bon, il se trouve que j'en ai absolument aucune utilité et que je préfère laisser ça à Condé Nast gracieusement. Mais si on veut s'émanciper complètement, c'est bien de s'émanciper aussi du salariat. Et que la raison pour laquelle on peut faire Quotidien et Le Monde et France Inter, c'est parce qu'il n'y a pas de droit d'exclu, parce qu'on n'est pas salarié. Et voilà, ça c'est important. Ouais.
Et ça a toujours été un objectif pour toi de ne pas
être
salarié.
Oui, voilà, exactement. Moi j'ai ma boîte, j'ai mes plateformes et je fais mon truc de mon côté, mais voilà, c'est ma personnalité de chat sauvage. Quoi. Là j'ai un bureau chez Quotidien, c'est absolument incroyable. J'ai des collègues, c'est fou. C'est une petite révolution.
Merci beaucoup Maya, c'était cool.
Merci.
À plus. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit
Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.